Chapitre 15. Mais vint un jour où le doute ne fut plus permis. Ma mère m'avait pris un billet pour une représentation de Fidelio, dirigée par Furt Wangler, et j'étais assis dans un fauteuil d'orchestre, attendant le lever du rideau. Les violons commencèrent à s'accorder, puis à jouer en sourdine, et une foule élégante emplit la salle de l'opéra, l'un des plus beaux d'Europe. Le président de la République en personne nous honorait de sa présence. Mais peu de gens le regardaient. Tous les yeux se tournaient vers la porte, près du premier rang des fauteuils d'orchestre, par laquelle, lentement et majestueusement, les Hohenfels faisaient leur entrée. Avec un mouvement de surprise et quelques difficultés, je reconnus mon ami, un étrange et élégant jeune homme en smoking. Il était suivi de la comtesse, en robe noire avec un étincelant diadème, un collier et des boucles d'oreilles, le tout fait de diamants qui projetaient une lumière bleuâtre sur sa peau mate. Puis venait le comte, que je voyais maintenant pour la première fois. Il avait une moustache et des cheveux gris, et une étoile incrustée de diamants brillait sur sa poitrine. Il se dressait là, uni, supérieur, escomptant que les assistants les contempleraient bouche bée, hommage que leur conférait 9 siècles d'histoire. Ils se décidèrent enfin à gagner leur place. Le comte ouvrait la marche et la comtesse le suivait, la lueur irisée que jetaient ses diamants dansant autour de sa jolie tête. Puis venait Conrad, qui avant de s'asseoir jeta sur l'auditoire un regard circulaire, s'inclinant lorsqu'il reconnaissait quelqu'un, aussi sûr de lui que son père. Tout à coup il m'aperçut, mais sans me donner le moindre signe de reconnaissance. Puis son regard erra autour des fauteuils d'orchestre, se leva vers les balcons et se rabaissa. Il m'a vu, assurément, me dis-je, car j'étais convaincu que ses yeux, en rencontrant les miens, avaient enregistré ma présence. Puis le rideau se leva, et les Hohenfels, ainsi que nous autres, quantité négligeable, restâmes plongés dans l'obscurité jusqu'au premier entr'acte. Dès que le rideau tomba, et sans attendre que les applaudissements se fussent éteints, je me rendis au foyer, une vaste salle ornée de colonnes de marbre corinthiennes, de lustres de cristal, de glaces aux cadres dorés, de tapis rouges cyclamens et tendus de papier peint couleur de miel. Là, appuyé contre l'une des colonnes et m'efforçant d'avoir l'air hautain et dédaigneux, j'attendis l'apparition des Hohenfels. Mais quand je les vis enfin, j'eus envie de m'enfuir. Ne vaudrait-il pas mieux écarter la pointe de la dague qui, je le savais, par l'atavique intuition d'un enfant juif, me serait dans quelques minutes plongée dans le cœur? Pourquoi ne pas éviter la souffrance? Pourquoi risquer de perdre un ami? Pourquoi demander des preuves au lieu de laisser s'endormir le soupçon? Mais je n'eus pas la force de fuir, de sorte que me raidissant contre la douleur, appuyé contre la colonne, je me préparais à l'exécution. Lentement et majestueusement, les Hohenfels se rapprochèrent. Ils marchaient côte à côte, la comtesse au milieu, faisant des signes de tête à des connaissances, en agitant une main couverte de bagues avec un léger mouvement d'éventail, les lueurs que jetaient son collier et son diadème l'aspergeant de perles lumineuses, pareilles à des gouttes d'eau cristalline. Le comte inclina légèrement la tête à l'adresse de diverses personnes et du président de la République qui répondit par un profond salut. La foule leur faisait place et leur procession royale poursuivait son chemin sans obstacle, superbe et impressionnante. Ils avaient encore une dizaine de mètres à faire avant d'arriver jusqu'à moi qui voulait connaître la vérité. Aucune échappatoire n'était possible. 5 mètres nous séparaient, puis 4. Il me vit soudain, sourit, toucha de la main droite le revers de son smoking comme s'il voulait en faire tomber un grain de poussière, et ils me dépassèrent. Ils continuèrent à avancer avec solennité, comme s'ils suivaient l'invisible sarcophage de porphyre de l'un des princes de la terre, au rythme de quelque inaudible marche funèbre, sans cesser de sourire et de lever la main comme s'ils voulaient bénir la foule. Lorsqu'ils atteignirent l'extrémité du foyer, je les perdis de vue, mais quelques minutes plus tard, le comte et la comtesse revinrent, sans Conrad. Passant et repassant, ils acceptaient l'hommage des spectateurs. Quand la sonnette retentit pour le 2e acte, j'abandonnai mon poste, rentrai chez moi, et sans être vu de mes parents, allai tout droit me coucher. Cette nuit-là, je dormis mal. Je rêvais que deux lions et une lionne m'attaquaient, et je dus crier, car je m'éveillais pour voir mes parents penchés au-dessus de mon lit. Mon père prit ma température, mais ne me trouva rien d'anormal. Et le lendemain matin, j'allais au lycée comme à l'ordinaire, bien que je ne me sentisse aussi affaibli que si je relevais d'une longue maladie. Conrad n'était pas arrivé. Je gagnai directement ma place, et faisant semblant de corriger un devoir du soir, je ne levai pas les yeux quand il entra. Il alla lui aussi directement à sa place et se mit à disposer ses livres et ses crayons sans me regarder. Mais dès que la cloche eut annoncé la fin du cours, il vint à moi, mit ses mains sur mes épaules, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, et me posa quelques questions, mais non celles qu'il eût fallu poser. Si j'avais aimé Fidelio. Je lui répondis aussi naturellement que possible, et à la fin de la classe, il m'attendit et nous rentrâmes ensemble comme si rien n'était survenu. Pendant une demi-heure, je continuai à feindre, mais je savais parfaitement qu'il savait ce qui se passait en moi, sinon il n'eût pas écarté le sujet qui avait pour tout de la plus grande importance, la soirée de la veille. Puis alors que nous étions sur le point de nous séparer et que s'ouvrait la grille, je me tournai vers lui et dis « Conrad, pourquoi as-tu fait semblant de ne pas me voir hier ?» Il devait s'être attendu à cette question, mais elle lui causa tout de même un choc. Il rougit, puis devint très pâle. Peut-être avait-il espéré qu'après tout, je ne la lui poserais pas, et qu'après avoir boudé quelques jours, j'oublierais ce qui était arrivé. Une chose était claire, il n'était pas préparé à être interrogé sans détour, et il se mit à bredouiller quelques mots que « je n'ai pas fait semblant de ne pas te voir, tu imagines des choses, tu es hypersensible, et je n'ai pu quitter mes parents. » Mais je refusai de l'entendre. « Écoute, Conrad, dis-je, tu sais parfaitement bien que j'ai raison. Crois-tu que je ne me rende pas compte que tu m'as invité chez toi que lorsque tes parents étaient absents? Crois-tu vraiment que j'ai imaginé des choses hier soir? Il me faut savoir où j'en suis. Je ne veux pas te perdre, tu le sais. J'étais seule avant ta venue, et je serais plus seule encore si tu me rejetais. Mais je ne puis supporter l'idée que tu as trop honte de moi pour me présenter à tes parents. Comprends-moi, je ne me soucie guère de relations sociales avec tes parents, sinon une fois pour 5 minutes, de façon à ne pas me sentir un intrus chez toi. D'ailleurs, je préfère être seule plutôt qu'humiliée. Je vaux autant que tous les Hohenfels du monde. Sache que je ne permettrai à personne de m'humilier, fût-il roi, prince ou comte. » Courageuse parole, mais j'étais maintenant au bord des larmes et n'eus guère pu poursuivre si Conrad ne m'avait interrompu. « Mais je n'ai aucune envie de t'humilier. Pourquoi le pourrais-je? Tu es, tu le sais, mon seul ami. Et tu sais que je t'aime plus que quiconque. Tu sais que j'étais seule moi aussi et que si je te perdais, je perdrais l'unique ami en qui je puisse avoir confiance. Comment aurais-je pu avoir honte de toi? Toute la classe ne connaît-elle pas notre amitié? N'avons-nous pas voyagé ensemble tout alentour? T'es-il jamais venu à l'idée que j'avais honte de toi? Et tu oses insinuer une chose pareille? » Oui, dis-je maintenant plus calme. Je te crois. Je te crois entièrement. Mais pourquoi hier étais-tu si différent? Tu aurais pu me parler un instant et te montrer conscient de mon existence. Je n'attendais pas grand-chose. Juste un signe de tête, un sourire, un geste de la main, cela eût suffi. Pourquoi es-tu si différent quand tes parents sont là? Pourquoi n'ai-je pas fait leur connaissance? Tu connais mon père et ma mère? Dis-moi la vérité. Il doit y avoir une raison pour que tu ne m'aies pas présenté à eux. Et la seule raison qui me vienne à l'esprit est que tu crains que tes parents ne soient réprobateurs à mon égard. Il hésita un moment. « Eh bien, dit-il, tu l'as voulu, Georges Dandin, tu l'as voulu. Tu veux la vérité? Tu l'auras. Comme tu l'as vu, et comment pouvais-tu ne pas le voir, je n'ai pas osé te présenter. La raison, j'en jure par tous les dieux, n'a rien à voir avec le fait d'être honteux. Là, tu es dans l'erreur, et beaucoup plus simple et plus désagréable. Ma mère descend d'une famille polonaise distinguée, jadis royale, et elle hait les Juifs. Pendant des centaines d'années, les Juifs n'existaient pas pour les gens de cette sorte. Ils étaient plus vils que les cerfs, l'excrément de la terre, des intouchables. Elle déteste les Juifs, elle en a peur, bien qu'elle n'en ait jamais rencontré un seul. Si elle était mourante et que ton père pût la sauver, je ne suis pas certain qu'elle le ferait appeler. Elle n'admettra jamais l'idée de faire ta connaissance. Elle est jalouse de toi, parce que toi, Juif, tu t'es fait un ami de son fils. Elle pense que le fait qu'on me voie avec toi est une tache sur le blason des Hohenfels. De plus, elle a peur de toi. Elle croit que tu as sapé ma foi religieuse, que tu es au service de la juiverie mondiale, ce qui revient simplement à dire le bolchevisme, et que je serai la victime de tes machinations diaboliques. Ne ris pas, elle parle sérieusement. J'en ai discuté avec elle, mais elle se borne à répéter « mon pauvre enfant ». Ne vois-tu pas que tu es déjà entre leurs mains? Tu parles déjà comme un juif. Et si tu veux toute la vérité, il m'a fallu lutter pour chaque heure passée avec toi. Et le pire de tout est que je n'ai pas osé te parler hier soir, parce que je ne voulais pas te blesser. Non, mon cher ami, tu n'as pas le droit de me faire des reproches. Tu n'en as pas le droit, je t'assure. Je regardais fixement Conrad, qui tout comme moi était bouleversé. « Et ton père ? » balbutiai-je. « Oh, mon père, c'est différent. Peu lui importe qui je fréquente. Pour lui, un Hohenfels sera toujours un Hohenfels, où qu'il soit et quelles que soient ses fréquentations. Si tu étais une juive, ce serait peut-être autre chose. Il te soupçonnerait de vouloir mettre le grappin sur moi. il n'aimerait pas ça du tout. Bien entendu, si tu étais immensément riche, il pourrait, je dis bien, il pourrait envisager la possibilité d'un mariage. Mais même alors, il détesterait blesser ma mère dans ses sentiments. Vois-tu, il est encore très amoureux d'elle. Jusqu'ici, il avait réussi à rester calme, mais soudain, emporté par l'émotion, il me cria « Ne me regarde pas avec ces yeux de chien battu. Suis-je responsable de mes parents? Y suis-je pour quelque chose? Me blâmerais-tu? Parce qu'ainsi va le monde? N'est-il pas temps pour nous deux de faire preuve de maturité, de renoncer aux rêves et d'affronter la réalité ?» Après cet éclat, il s'apaisa. « Mon cher Hans, dit-il avec une grande douceur, accepte-moi tel que j'ai été créé par Dieu et par les circonstances indépendantes de ma volonté. J'ai tenté de te cacher tout cela, mais j'aurais dû comprendre que je ne pourrais te leurrer bien longtemps et avoir le courage de t'en parler avant. Mais je suis un lâche, je ne pouvais simplement pas supporter l'idée de te blesser. Pourtant, je ne suis pas entièrement à blâmer. Tu rends vraiment très difficile à quiconque d'être à la hauteur de tes idées sur l'amitié. Tu escomptes trop de simples mortels, mon cher Hans. Essaie donc de me comprendre et de me pardonner, et continuons à être amis. » Je lui tendis la main, n'osant le regarder en face, car nous aurions pu nous mettre à pleurer, tous deux ou l'un de nous. Nous n'avions que 16 ans après tout. Lentement, Conrad referma la grille de fer qui devait me séparer de son monde. Il savait, et je savais, que je ne pourrais jamais plus franchir cette frontière, et que la résidence des Hohenfels m'était fermée à jamais. Il alla lentement jusqu'à la porte, toucha légèrement un bouton et la porte s'ouvrit silencieusement et mystérieusement. Il se retourna et me fit un signe de la main, mais je m'abstins de le lui rendre. Mes mains étreignaient les barreaux de fer comme celles d'un prisonnier implorant sa délivrance. Les griffons, avec leurs becs et leurs griffes comme des faucilles, abaissaient sur moi leurs regards, élevant très haut et triomphalement les culs des Hohenfels. Il ne m'invita plus jamais chez lui, et je lui sus gré d'en avoir le tact. Rien d'autre ne semblait avoir changé. Nous nous rencontrions comme auparavant, comme si rien n'était survenu, et il venait voir ma mère, mais de plus en plus rarement. Tous deux savions que les choses ne seraient jamais plus comme avant, et que c'était le commencement de la fin de notre amitié et de notre enfance.